Interview.
2A et c'est l'heure de l'interview avec au studio Étienne. Bonjour.
Bonjour.
Étienne, tu es avec nous pour nous annoncer la sortie d'un EP intitulé
The Morning After Tiensen's Visit.
Voilà, donc un EP doté de 3 propositions musicales. On a écouté la première pour l'introduction de l'émission qui s'appelle The Smithy.
Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est un EP de 3 titres dans un style folk rock qui tend un peu vers le blues parfois. Voilà, globalement, c'est ça.
C'est donc des influences plutôt son américain.
Ouais, plutôt son américain, Amérique du Nord. qui va voilà avec pas mal d'influences blues, vieux blues dans la construction des chansons, donc des gens comme Sondhaus ou Leadbelly Belly ou voilà vraiment des vieux blues, des vieux bluesmen, et des choses plus récentes également comme Timber, qui est un artiste canadien que j'aime beaucoup, qui est vraiment une très grosse influence pour ce que je fais en ce moment. Et voilà, et d'autres choses à côté qui s'entendent peut-être un petit peu moins. Ou, voilà, mais...
voilà, je crois qu'il y a un titre, hein, Beat in Slow, il me semble, ou Slow Beat de Timber.
Oui.
Que j'adore. Ça m'est arrivé de le passer. Ouais. Et donc, il y a cette ambiance un peu profonde, en tout cas. C'est une musique plutôt profonde dans ce style du blues, avec des paroles, des choses qui sont exprimées.
Alors, les paroles sont plutôt intimes sur cette EP. Ça parle de choses que j'ai connues, que je décris, que j'ai pu vivre, des ressentis, et j'essaie de le construire avec une ambiance un petit peu fantomatique, avec voilà quelque chose dans le son qui est aussi un petit peu sombre dans la couleur du son.
Donc un travail plutôt autobiographique, en quelque sorte.
Ouais, autobiographique, je sais pas, mais oui, il y a des choses de ça. Il y a le premier morceau qu'on a entendu de Spiti qui parle d'un quartier du village de mes parents qui m'a toujours un petit peu fasciné depuis que je suis enfant. Et puis un jour, en faisant de la guitare, j'ai commencé à écrire un peu dessus. C'est un quartier un petit peu étrange et qui a une ambiance qui me rappelait un petit peu ces ambiances justement de musiciens que j'aime bien. Une ambiance avec une vieille fonderie que j'ai toujours connue, dans laquelle j'ai toujours entendu le bruit de la fonderie, donc des bruits assez effrayants quand on est enfant. Voilà, et j'y passais tous les jours ou presque devant. Et j'ai jamais vu personne entrer ou sortir de cette fonderie. Donc il y avait vraiment cette ambiance juste du bruit du métal qui était là. Et juste au-dessus de cette fonderie, il y a un château qui doit être du 18e ou quelque chose, qui est assez majestueux, tout blanc, mais en même temps délabré. Qui est un petit peu fantomatique au-dessus. Enfin voilà, l'endroit quand j'étais petit me faisait un petit peu peur. Quand j'étais ado, etc., je continuais d'y passer souvent. Il m'a toujours un petit peu fasciné. Et ça finit par donner une chanson où je décris juste cet endroit et les sensations qu'il me procure, voilà, qui sont très personnelles au final.
Et quand tu parles de ce quartier, c'est de quelle ville tu parles ?
Ah, c'est un tout petit village dans les Ardennes, pas très loin de la Belgique. Avec un plafond gris en permanence, la forêt qui est juste à côté de cette fonderie et qui démarre à une quinzaine de mètres à peine. Et c'est pas très loin de Sedan, qui est la ville la plus proche dans le nord-est de la France.
Et puis moi, je me souviens aussi, étant en Lorraine, il y avait ces usines sidérurgiques avant leur fermeture, où tout était d'une espèce de couleur ocre, rouille.
Oui, voilà, c'est ça, c'est la roue, le paysage est vert, gris et rouille, avec de la suie noire au sol. Et oui, le bâtiment est en briques et en rouille, et il se dégage de là une ambiance un peu fascinante, oui.
Et justement, ce titre The Smithies, ça raconte cette période qui n'a plus lieu aujourd'hui, ou elle est toujours...
Ça en parle de manière détournée. C'est, alors pour la petite histoire, le château qui est au-dessus a également une activité actuellement qui se passe dedans. Et voilà, je tire un peu sur le fil de... il y a toujours cette fonderie qui tourne, il y a toujours du bruit dedans, il y a quand même plus grand monde. On n'en voit jamais personne entrer et sortir, comme je disais. À une époque, il y a sûrement eu un passé un peu glorieux qui a fait que le village a prospéré pendant la révolution industrielle ou une période comme ça. Mais voilà, que c'est quelque chose qui tombe en décrépitude et qui se ressent et qui est lourd sur place. Mais j'avais pas envie d'en faire quelque chose, pour le coup, axé vraiment sur cette lourdeur-là. C'était juste vraiment les impressions que me donnait ce lieu, plus que, plus qu'un témoignage réel de l'activité a été celle-ci, maintenant c'est celle-là. Au final, j'en sais pas grand-chose et c'est juste des sensations personnelles.
Alors, cet album est proposé par Jerry Jerry, c'est ton pseudonyme artistique pour ce disque.
C'est le nom du projet en tout cas.
Oui.
Je me présente pas moi comme Jerry, ni Jerry Jerry, ni Jerry.
Oui.
Mais c'est le nom du projet que je mène tout seul en ce qui concerne la composition et l'écriture et la plupart des choses. En revanche, pour l'enregistrement, j'ai fait appel à plusieurs amis parce que j'avais envie de certaines ambiances, de certains sons, de certains instruments dont je ne joue pas. Du coup, sur l'album, je chante et je joue la guitare. Je joue aussi les rares parties de basse quand il y en a. Et j'ai trois amis qui m'ont rejoint, Clara au violoncelle, Gaspard à la batterie et pour un titre, Antoine au Moog. Et voilà, on a construit ça ensemble pendant quelques semaines pour réarranger les morceaux à plusieurs. Antoine est venu plus sur le tard pour rajouter des parties de Moog. Mais les morceaux au départ sont de moi. Je sais pas si un jour on les jouera ensemble sur scène ou pas avec Gaspard, Clara, Antoine. J'en sais rien. Je peux pas dire oui ou non. J'aimerais bien. Je sais pas pour eux. On en a jamais discuté.
Effectivement, quand on écoute, il y a vraiment cette ambiance bien blues américain. Comment c'est composé ces morceaux se sont composés. Donc, il y avait la musique ou les paroles avant ?
La musique. Il y a toujours la musique avant. J'ai joué beaucoup de musique quand j'étais jeune. Quand je dis jeune, c'est entre 17 et 25 ans, avec des groupes de rock. J'ai laissé ça de côté pendant très longtemps et poussé par ma copine Camille, je m'y suis remis il y a un an et demi à peu près de manière un peu intensive. Voire obsessionnel et du coup j'ai toujours ma guitare dans les mains quand je suis à la maison. Je bricole des trucs de temps en temps, il y a des choses qui sortent, voilà, et la musique vient toujours en premier. Une fois que j'ai un riff, une suite d'accords, une construction qui se met en place, je commence à y mettre des paroles dessus et voilà, à parler de choses qui m'intéressent sur le moment ou que la musique m'évoque en termes de sensations, de ressentis, des choses comme ça. Mais ça vient toujours de la musique. Oui.
Et puis donc, il y a cette guitare ou peut-être plusieurs guitares, mais on sent une sonorité particulière.
Ouais, là, il y a plusieurs guitares sur l'enregistrement, mais c'est des morceaux qui sont réarrangés pour l'occasion, mais que je joue avec une seule partie de guitare. Au départ, ils sont composés avec une seule partie de guitare qui est réarrangé sur plusieurs instruments derrière, mais principalement électrique. Je suis un joueur de guitare acoustique médiocre et je suis plus à l'aise à l'électrique, mais avec paradoxalement presque un jeu acoustique. Enfin, c'est un peu étrange. Je pense que ça vient des gens que j'admire et que j'écoute beaucoup. Mais j'ai pas un jeu très virtuose à la guitare électrique. Je suis pas forcément attiré par mettre des solos de guitare ou des choses comme ça partout. C'est une guitare très rythmique. Donc il peut être voilà, il peut y avoir des riffs, il peut y avoir des petites phrases, il peut y avoir des choses, mais c'est toujours une guitare très rythmique et j'aime bien les trucs un peu entêtants à la guitare.
Et alors cet apport du violoncelle avec Camille, qu'est-ce qu'elle apporte elle-même dans ses compositions?
Alors le violoncelle c'est Clara, c'est pas Camille.
Ah pardon, Clara, je me suis trompé.
Pas de problème. J'avais envie de cette couleur-là justement parce que j'avais envie d'avoir une assise dans le bas du spectre, un peu plus fournie que simplement avec ma guitare. J'avais pas envie d'un son de basse, j'avais pas envie de faire un album de rock, ce que je ferai sûrement un jour parce que j'ai envie de le faire par ailleurs sur d'autres choses, mais pour ces chansons-là, pour ce projet-là, je voulais quelque chose de plus folk. Et voilà, j'avais Clara, que je connais par mon travail, dont je savais qu'elle jouait du violoncelle, je lui ai proposé, et il se trouve qu'on a peu près, en tout cas, on a des goûts musicaux qui se rejoignent et les influences de cette EP, des quelques groupes que je lui ai cités au début pour lui dire j'aimerais bien enregistrer un truc un peu dans cette veine-là, c'était des groupes qu'elle aime beaucoup elle aussi, du coup ça s'est fait assez facilement comme ça. Ouais.
Et c'est un travail qui a pris quelques temps quand même.
Oui, hein, ça n'a pas pris beaucoup, mais il fallait quand même qu'on prenne le temps de, D'écrire ses parties à elle, d'écrire les parties de batterie également, de faire quelques répétitions pour être pour connaître les morceaux juste entre nous et pouvoir arriver le jour de l'enregistrement en étant assez relativement efficace et pouvoir enregistrer ça comme on en avait envie.
Et puis la batterie donc avec.
La batterie avec Gaspard. Du coup, c'est Clara qui m'a présenté Gaspard. Enfin, je le connaissais de loin, mais voilà, on a de la même façon, je lui ai présenté le projet. Il m'a dit qu'il était partant pour cet enregistrement et m'aider là-dessus. Et voilà, au final, il y a peut-être eu, je sais pas, on a répété ensemble de décembre à fin février, ouais, sur 3 mois, au rythme d'une fois tous les 15 jours, quelque chose comme ça.
Et puis le Moog, alors, cet instrument.
Et le Moog, ça arrivait sur. Sur la fin, j'avais un problème avec un des 3 morceaux qui sonne beaucoup plus blues que les 2 autres. Et il y a une guitare qui est très lourde dedans, qui sonne, si ça parle à des gens, un peu comme alors dans le son plus que dans la mélodie, mais comme le. J'avais en tête la guitare de Neil Young dans la bande originale de Dead Man. Pour faire ça. Donc j'essayais d'avoir un son comme ça, très rauque, très bas, etc. Mais quand arrivent les refrains de ce morceau, cette guitare disparaît pour laisser de la place à une autre guitare qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus brillante. Et ça déséquilibrait trop le truc et j'avais besoin de rajouter quelque chose dans le bas du spectre et j'avais toujours pas envie de mettre une basse. Et Antoine, un copain, est passé par là à ce moment-là. On en a discuté. Lui, il avait son Moog à la maison. On a bricolé. On s'est vu une soirée. Puis on a enregistré une partie de Moog qu'on a mis dessus et qui, je trouve, fonctionne. Et j'étais content avec ça.
Cet enregistrement s'est produit où ?
Alors, on a enregistré à Cré. Les 3 autres, moi, j'habite à Dix, mais les 3 autres musiciens sont à Cré. On a un local de répète dans lequel on circule tous de plus ou moins près. Et donc on a enregistré au local de répète. Moi j'ai une formation d'enregistrement en studio. Et voilà, et mon matériel. Et on a enregistré à Cré sur une grosse journée. Et ensuite, le mixage a été fait dans mon petit home studio à Cré également, là où je travaille, où j'ai mon studio à côté.
Donc, tu es aussi musicien professionnel ?
Non.
Non, pas du tout. C'est un plaisir pour toi ?
C'est un loisir, c'est un plaisir. Je ne sais pas si ça évoluera un jour, mais pour l'instant, c'est très bien comme ça.
Et l'activité que sont la cité, est-ce qu'elle a un lien aussi avec ta création artistique ? Est-ce qu'il y a une influence dans la réflexion de... dans, que disent les paroles ? Tu parlais donc de cette banlieue en Ardennes.
Ouais.
Le deuxième morceau que l'on écoutera, intitulé The Bunker, ouais. Est-ce qu'il y a des...
Non, celle-là, c'est plus un... C'est plus une blague que je me fais à moi-même, voilà, avec oui, donc K, donc la lettre K de Banker. Donc on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière cette lettre K. Et voilà, j'avais besoin de me sortir d'un truc, et c'est sorti de cette façon-là. Et au final, je trouve ça très bien que ce soit sorti de cette façon-là. Et voilà, c'est une blague que je me fais à moi-même, et au final que ça se finisse dans une chanson qui est une chanson très douce, dans sa musique en tout cas, je trouve ça chouette. Voilà.
Jerry, je t'en parlais avant l'enregistrement, tu m'as dit que ça t'est inspiré de ce film intitulé justement Jerry, mm-hmm. avec Matt Damon, l'histoire de deux jeunes amis, hein, ouais. Deux étudiants. Hein,
on ne sait pas trop ce qu'ils sont là par rapport à l'autre.
On imagine qu'ils partent en promenade,
ouais,
mais en plein désert.
Ils partent en promenade en plein désert. Il y en a un qui trouve que le désert, sur les 3 premières minutes du film, est trop fréquenté, que ça fait un peu trop touristique, et qu'ils vont prendre un autre chemin. Et évidemment, ils se perdent. Et le film les suit pendant leur errance à chercher la sortie de ce désert. Alors, je ne sais pas si des gens sont sûrs de leur coup pour ça. En tout cas, moi, je n'ai jamais trop su me positionner sur est-ce que ces deux personnages sont deux facettes de la même personne ? Est-ce que c'est deux frères ? Est-ce que c'est deux amis ? Est-ce que c'est deux amants ? Est-ce qu'ils ne se connaissaient pas un petit peu avant, puis ils se retrouvent perdus là tous les deux ? Ils s'appellent Jerry tous les deux. Il y en a toujours un qui suit l'autre ou l'autre qui suit l'un, un peu comme son ombre, voilà, dans cette quête de sortie du désert qui est un peu tragique et difficile.
Je crois que c'est un film de Gus Van Sant, hein, il me semble. Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et donc, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film, justement, au point de le prendre pour le titre cette formation ?
Gus Van Sant, pour le coup, ça a été une de mes obsessions pendant de nombreuses années. C'est un réalisateur que j'ai beaucoup aimé. Et ce film, c'est cette errance dans le désert qui m'a toujours fasciné, de la première fois où je l'ai vu, des longs plans qui durent des minutes et des minutes et des minutes, où il n'y a pas une parole, où il y a deux personnes qui marchent et où il se passe, pour moi, des millions de choses. Et puis je cherchais un nom pour ce projet et à un moment, ça m'a retraversé. Je crois que c'était en étant dans une exposition où j'ai revu un extrait qui faisait partie de l'exposition. Et je me suis dit, ah mais ouais, Jerry, c'est bien. Et puis, ils sont deux. Jerry, j'aime bien ça. J'aime bien comment ça sonne. Du coup, je vais prendre ça.
Les compositions, il y en a trois sur cette IP. Est-ce qu'il y en a d'autres en réserve à venir qui seront...
Il y en a d'autres sûrement à venir. Ouais, il y a des trucs qui sont
qui existent
travaux,
peut-être
en
déjà.
Non, qui n'existent pas encore complètement, mais qui sont en chantier. Ouais.
Ça prend... quelques semaines quand même pour créer.
Ça dépend. La fameuse chanson Kay de Banker, elle a été écrite en 10 minutes. Les deux autres, ça a été un peu plus long et douloureux, mais douloureux. Ça reste un plaisir quand même, faut pas abuser. Mais ça dépend les morceaux. Celle-là, voilà, j'avais une mélodie une suite d'accords que je trouvais chouette pour faire un morceau très très doux. J'avais ma petite histoire à raconter qui me faisait marrer. Et en 10 minutes, c'était fait.
Voilà, et puis il y a ce son, hein, il a fallu... il était en toi, ce son, tu le connaissais déjà avant de pouvoir le concrétiser. Hein,
je savais ce que je voulais approcher, en tout cas en termes de son. Je savais que je voulais une ambiance un peu hantée, un peu fantomatique, avec beaucoup de réverb, avec un son pas forcément très propre tout le temps, loin de là, du délai qui traîne, des choses qui granulent un petit peu. Et c'est des textures que j'aime bien et que je souhaite continuer à explorer sur d'autres morceaux et dans d'autres projets, pas forcément celui-ci, pas forcément sur de la folk, peut-être sur des choses plus rock ou garage.
Et d'ailleurs, peut-être que l'on vous verra tous sur scène aussi
ou vous Pourquoi avez pas, déjà... je ne sais pas. Alors pour l'instant, l'emploi du temps va être compliqué. En ce qui me concerne, je ne vais pas être dans le coin jusqu'à la fin de l'année 2026. Du coup, s'il y a concert, ce que j'espère, alors soit moi tout seul, soit avec les copains, ce sera en 2027. Mais j'espère pouvoir le défendre, défendre ces chansons-là à un moment devant un public. Ouais.
Alors, pour connaître cette IP ou se le procurer, comment peut-on faire ?
Alors, il est disponible sur Bandcamp. En écoute libre et à l'achat pour ceux qui le souhaitent. Et il y aura un tirage vinyle qui va arriver, que j'ai pas encore reçu, mais qui va arriver. Mais c'est une série toute petite. Donc, ce sera vraiment une édition très limitée.
Centaine ?
Oh non, plus petit que ça, une vingtaine de disques.
D'accord.
Et donc pour l'instant, il y a cette solution-là. Je me renseigne à comment. Enfin, je me renseigne. J'imagine que ce n'est pas très compliqué de mettre sur d'autres plateformes, mais je n'ai pas envie de le mettre sur n'importe quelle plateforme. Et il y en a sur lesquelles je n'ai pas envie de le mettre. Donc, je n'ai pas encore dégrossi le terrain sur où est-ce que je le pose, où est-ce que je ne le pose pas. Pour l'instant, il est sur Bandcamp.
Et puis, il y a donc cette deuxième écoute avec The Bunker. Alors, tu nous as expliqué un peu la raison de cette écriture de ce titre.
Oui, On a tous discuté avec des banquiers dans notre vie. Voilà.
Oui. Donc c'est pas joyeux.
C'est pas, je sais pas.
Ils offrent parfois des crédits, ça fait plaisir.
Mais et puis des fois ça se passe très bien. Des fois ça se passe moins bien. Et puis voilà.
C'est un reflet un peu de ce que tu vis quand même dans la société où tu vis.
Oui, c'est forcément un reflet. C'est une blague, cette chanson. C'est vraiment une blague pour moi, pour mettre un point final à une situation perso.
Oui, parce qu'il y a un troisième morceau dont on n'a pas parlé.
Troisième morceau qui s'appelle
Run.
Ouais, là, qui est plus introspectif et perso, qui touche plus à du... qui touche plus à de l'intime, pour le coup. Ouais.
Eh bien, Étienne, nous allons nous quitter avec cette deuxième écoute donc de The Bunker.
Ouais.
Adi, comment peut-on... les vinyles seront certainement
ils seront
très limités.
Oui, ils seront très limités. Ils seront sur Bandcamp également.
Oui.
Et voilà, je n'ai pas réfléchi à la question de savoir encore où est-ce qu'ils... De toute façon, il y en aura 20, donc ils ne vont pas être dans 50 boutiques au centre-ville. Ouais. Mais ils seront disponibles sur Bandcamp d'ici un mois et demi, je pense.
Est-ce que, personnellement, tu as un site Internet également ?
Non, je suis très mauvais sur Internet. J'ai pas je n'ai plus les réseaux sociaux, pour être tout à fait précis. Et je n'ai pas de site Internet. Et voilà, donc je suis bien comme ça.
C'est un peu, en quelque sorte, un espace à part, un monde à part de ce que l'on vit aujourd'hui, ce moment d'écoute de ces trois morceaux.
J'espère que les gens prendront du plaisir à les écouter. Et voilà, après, ils sont là, ils existent, je les propose, et puis s'il y a des gens à qui ça plaît, tant mieux. Et puis les autres, ils auront perdu 3 minutes, au pire.
Je pense pas qu'on les perde, la première écoute, c'est assez prenant en tout cas. Eh bien, Étienne, merci, et on se quitte donc avec ce deuxième extrait de cet EP. On peut rappeler le titre ?
Ouais, The Morning After Tiansen's Visit.
Avec le titre donc The Bunker. Ouais. Et je te souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
this wondrous.